Émile resserre une tasse de thé à Joanne. Elle a bu la sienne par petites gorgées sans cesser de parler. Il repousse la tasse pleine vers elle sans un mot. Il la laisse poursuivre. Joseph est allongé sur son lit, le teint blême. Joanne est assise au bout, à côté de ses pieds. Son état ne s'est pas amélioré. Elle sent qu'il lutte pour s'en sortir, pour surmonter la fatigue qui l'étreint.
« Papa !»
Elle prend sa main dans la sienne. Elle est glaciale.
« Bois ton infusion. »
Joseph obéit docilement. Puis il se redresse, adossé contre les oreillers. Il la regarde avec tendresse.
« Joanne, je veux pas devenir un poids pour toi. »
« Ne dis pas de bêtises, papa. »
« Tu as ta famille à gérer. Le petit homme a besoin de toi. »
Elle baisse les yeux. Elle n'ose pas lui répéter ce que Léon lui a chuchoté dans la chambre la veille au soir. Un mot terrible. Un mot qu'elle n'arrive pas à prononcer.
« Il va falloir que tu le protèges, Joanne. Je ne serai pas là éternellement. »
Elle garde les yeux baissés. Elle sait qu'il a raison.
« Tu ne dois plus les laisser faire. Tu ne dois plus les laisser maltraiter Tom. »
Elle déglutit avec difficulté.
« Je sais. »
« Léon ne le fera pas. »
« Je sais. »
Le silence retombe. Joanne n'ose toujours pas relever les yeux vers le visage de son père.
« À quoi tu penses ? »
demande-t-il. Elle hésite encore un instant, un très court instant.
Est-ce que tu crois qu'il a... qu'il est...
Elle le regarde droit dans les yeux.
Léon a parlé d'autisme.
Le mot est sorti. Il lui fait l'effet d'une lame de couteau dans la gorge.
Est-ce que tu crois que... tu penses qu'il l'est ?
Joseph reste impassible, droit contre ses oreillers.
Je crois que Tom vit dans un monde qui lui est propre. Un monde parallèle au nôtre. Il a des difficultés à entrer dans notre réalité.
Joanne déglutit et l'écoute attentivement, retenant sa respiration.
Les adultes autour de lui attendent désespérément qu'il entre dans notre monde. Mais ça n'est pas possible pour lui. Il essaie de le faire comprendre à sa manière, en frappant, en s'enfuyant.
Il la regarde avec plus d'intensité. Ses yeux brillent d'une lueur paisible.
Tu sais pourquoi il te laisse l'approcher, Joanne ? Pourquoi moi, il ne me frappe jamais ?
Elle hausse les épaules. Elle pressent la réponse, mais elle n'en est pas vraiment sûre.
Nous n'essayons pas de le traîner de force dans notre réalité. Nous faisons l'effort d'entrer dans la sienne autant que cela nous est permis. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons. Je crois que Tom l'a senti.
Joanne acquiesce, une boule dans la gorge.
Il va te falloir du courage, Joanne, pour leur tenir tête. Je suis désolé.
Pourquoi, papa ? Pourquoi tu es désolé ?
Parce que je ne pourrai pas rester pour t'épauler. Je suis épuisé, je le sens.
Mais je ne t'en veux pas, papa. Je...
Elle chasse les larmes qui obstruent sa gorge.
Je suis assez forte pour faire face. Je protégerai Tom.
Joseph lui sourit avec une infinie tendresse.
Je sais, Joanne. Tom n'aurait pu rêver une meilleure mère que toi.
Il s'ensuit un silence plus léger que les précédents.
Je suis désolé pour autre chose, ajoute Joseph.
Pourquoi ?
À propos de Léon.
Léon ?
Il n'est pas un compagnon de voyage idéal. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Mais qu'importe. Tu l'aimes, n'est-ce pas ?
Joanne fronce les sourcils.
Un compagnon de voyage ?
Joseph sourit faiblement et acquiesce.
Pour ce grand voyage qu'est la vie ?
Elle reste muette. Le silence se prolonge. Il reste immobile, Joanne assise au bout du lit. Joseph adossé aux oreillers.
Si je peux faire quoi que ce soit de là-haut.
Son sourire s'élargit, se fait plus malicieux.
S'il existe un là-haut, bien sûr.
Mais Joanne ne peut pas lui rendre son sourire. Elle sent les larmes prêtes à déferler.
Si je peux faire quelque chose, alors je te le promets, Joanne. Je m'arrangerai pour t'envoyer un signe. Le jour où ta vie deviendra trop lourde à porter, je tâcherai de t'envoyer un autre compagnon de voyage.
Papa !
Elle n'aime pas qu'il parle ainsi de Léon. Elle sait qu'il n'est pas parfait, mais il est le père de son enfant.
Un compagnon de voyage qui saura te protéger et te rendre heureuse.
La discussion s'était arrêtée là, ce jour-là, dans la semi-obscurité de la chambre de Joseph, car Joanne s'était mise à pleurer. Les larmes tombaient en petites gouttes sur ses mains glaciales. Dans la petite cuisine de l'annexe, au milieu de la montagne enneigée, Émile n'ose pas parler. Il fronce les sourcils, tend une main vers celle de Joanne et les effleure doucement. La neige a cessé de tomber au dehors. Le jour se couche lentement dans des lueurs orangées. C'est pour ça ? Elle a le regard perdu au fond de sa tasse de thé noir. Elle frémit, à peine. C'est pour ça que t'as répondu à cette annonce ? Elle répond dans un souffle.
Compagnon de voyage pour ultime escapade.
Elle relève la tête.
C'est de moi que tu parlais, non ?
Il sourit comme il ne lui a jamais souri jusqu'à présent, avec un mélange de tendresse infinie et de tristesse.
Ouais, c'est de toi que je parlais. Papa, une nouvelle lettre dans mon carnet, pour toi. La prochaine sera pour Tom. Il faut que je lui raconte la neige qui tombe, le ciel gris nacré, les flammes si belles dans la cheminée. Papa, j'ai enfin parlé à Émile de ce que tu as fait. Je crois qu'il ignorait que c'était toi qui l'envoyais auprès de moi. Peut-être ne me croit-il pas tout à fait. Peu importe, moi je sais qu'il s'agit de ton œuvre. Certains signes ne trompent pas. Par exemple, il a su comprendre Tom dès le début. C'est lui qui m'a soufflé, pour l'immensité, pour les peintures. C'est lui qui m'a proposé de veiller sur lui quand il sera là-haut. Il est comme Tom, tu sais. Il a une drôle de maladie qui le fait partir dans une autre réalité de temps en temps, dans un autre espace-temps. Dans le sien, il y a des personnages de son passé. 6 mois en arrière, il m'a emmené sans poser aucune question. Il m'a juste emmené et alors il m'a montré des choses que je n'avais jamais vues. Des montagnes tellement hautes qu'elles semblaient crever le ciel et créer un pont entre l'au-delà et l'ici-bas. Des plaines tellement vertes, tellement vallonnées et tellement lisses qu'on voudrait s'y allonger et y rester pour l'éternité. Des lacs à l'eau si pure qu'elle vous nettoie l'âme. Des couchers de soleil sur des neiges éternelles qui font briller les yeux plus fort que n'importe quelle larme. Il m'a montré tout ça comme un dernier cadeau qu'il souhaitait offrir au monde avant de le quitter. Je crois qu'il s'entendra avec Tom là-haut et avec toi aussi. Il est curieux. Il aime découvrir l'univers des autres. Moi, il m'a demandé de l'emmener dans le mien. Il dit que tout y est beau et poétique. Je crois qu'il se plaira avec vous. Je l'ai initié à la méditation et il connaît les différentes variétés de courges maintenant. Il commence à noter des citations partout et l'autre jour, je l'ai entendu fredonner « My baby just cares for me ». Tu as toujours eu un faible pour Nina Simone. Je suis sûr que vous l'aimerez. Papa, je dois te laisser. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Émile et moi allons cuisiner un semblant de repas de fête. Nous serons seulement tous les deux ici, avec les animaux. Poc et Mystique auront droit à quelques boulettes de viande qu'Émile ne peut s'empêcher d'avaler encore. Chacun ses petits défauts. Je t'embrasse. Embrasse Tom pour moi. Dis-lui que je pense à lui chaque seconde ici. Avec tout mon amour, Joanne. Ils ont refait l'amour cet après-midi, en ce jour du réveillon de Noël. Alors que Joanne peignait Émile sur sa toile, alors qu'elle l'observait, notait sur son carnet, allongé sur le lit, alors qu'elle le scrutait avec attention, afin de reproduire le plus fidèlement possible chacun de ses traits, chacune de ses expressions, elle a fini par lâcher sa toile.
Elle l'a posé sur le rebord de la fenêtre et elle l'a rejoint sur le lit. Elle a posé ses deux mains glaciales sur ses joues avec douceur et il a lâché son carnet noir. C'est lui qui l'a embrassé, avec une douceur infinie. On ne l'avait jamais embrassé comme ça. Ensuite, il l'a déshabillée et il s'est allongé sur elle. Ils ont fait l'amour en plein après-midi, alors que la neige tombait en lourds flocons dehors, alors que le feu mourait dans la cheminée. Après ça, ils sont restés allongés des heures dans la moiteur des draps sans rien dire. Dans la petite cuisine embuée de l'annexe, les bougies tremblotent faiblement. Les restes du repas de fête trônent sur la table branlante. Joanne n'a pas terminé son risotto de champignons. Émile a laissé ses boulettes et Poc est en train de les avaler goulûment, debout au milieu de l'assiette. La bouteille de vin rouge est à demi vide. Émile termine son verre d'une traite. Joanne ouvre avec lenteur une papillote qu'elle enfourne dans sa bouche avec un soupir d'aise. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas cuisiné avec autant d'application. Ils sont repus. Ils se sont offerts un vrai repas de fête. Émile se renverse dans son fauteuil avec un léger grognement. Il regarde Joanne sortir le puzzle 500 pièces du petit tiroir en bois de la table. Ils l'ont déjà fait et refait une dizaine de fois, mais ils prennent toujours autant de plaisir à le reconstituer, à s'enfermer dans un silence doux, à laisser leur esprit s'évader. Il la laisse démarrer. Elle trie les pièces. Elle commence par former le coin droit supérieur du tableau. Un colibri dans un arbre de la forêt. Il se racle la gorge. Elle se tourne vers lui, le regard interrogateur. Il s'est passé quoi après ? Elle ne comprend pas sa question. Elle le lui montre en fronçant son nez. Ton père est mort peu de temps après ? Il fait référence à leur dernier voyage dans les méandres du passé de Joanne. Il aimerait qu'ils y retournent tous les deux. Joanne recommence à chercher parmi les minuscules pièces du puzzle. Il lui faut quelques secondes pour répondre. Il est décédé une semaine après, dans son sommeil, tout doucement. Le décor se remet en place autour d'eux, faisant disparaître progressivement la petite cuisine de l'annexe, la fenêtre crasseuse, la neige dehors. Ils se retrouvent dans la maisonnette en pierre, sous le soleil d'été de Saint-Suliac.
Joseph est parti.
C'est Léon qui prononce ces mots, abasourdi. Joanne sait déjà. Elle est allée dans sa chambre directement en se levant et elle l'a trouvé rigide, mais paisiblement endormi. Un sourire diffus flottait encore sur son visage de cire. Elle a expliqué au petit homme qui attendait près d'elle, tirant sur la couverture du lit.
Joseph a entamé son dernier long voyage. Il est parti dans un endroit où toutes les âmes trouvent le repos.
Elle a embrassé ses cheveux blonds qui sentent le miel et la terre. Il pleure dans le potager, aucun ne parvenant à se décider à appeler le vieux médecin. Il pleure assis au milieu des plants de tomates que Joseph a arrosés avec tant d'amour pour nourrir sa famille. Joanne a le visage dissimulé derrière son grand chapeau noir. Tom fixe le ciel. Léon a la tête entre les mains. Il est le premier des trois à se lever.
Je vais appeler le docteur Aumont.
Le soir, Joanne sort son plus beau feutre, celui avec la mine la plus épaisse, et elle écrit sur les murs du salon, avec de jolies lettres appliquées, « Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d'habitude. » Elle la contemple avec satisfaction, un léger sourire au coin des lèvres. Elle ne voulait pas d'une phrase triste. Elle voulait une phrase que Tom puisse lire plus tard, en comprenant que la mort n'est pas un drame, qu'elle fait partie de la vie, qu'on doit l'accepter. Elle voulait recopier quelques mots qui fassent sourire, qui fassent songer que la vie est toujours là, partout, comme ce soir dans ce salon. Dans la course soudaine et effrénée de Tom à travers la pièce, dans ses mains qui battent l'air avec frénésie, dans ses pupilles qui s'émerveillent. Il parcourt les derniers mètres pour atteindre le haut de la petite falaise à bout de souffle. Le soleil est lourd. Ils sont trempés de sueur. Joanne porte Tom sur son dos. Léon ne peut toujours pas le toucher sans s'attirer les foudres du petit garçon. Et Léon porte l'urne argentée. ils s'arrêtent tous les trois au pied de l'oratoire. La Vierge Marie est là, tranquille et inébranlable sous le soleil de plomb, d'une blancheur éclatante. Les herbes grimpantes, grillées par la chaleur, s'enroulent autour des vieilles pierres du socle. En contrebas, le bleu éclatant de la mer et la beauté de l'anse de Saint-Sulliac. Léon recule. Il laisse Joanne se saisir de l'urne argentée. Il la regarde s'approcher du bord de la falaise à pas lents. C'étaient les instructions de Joseph, s'envoler au-dessus de la mer. Léon reste en retrait avec Tom qui fixe le ciel immobile. Joanne reste quelques secondes figée au-dessus du vide, comme si elle adressait quelques paroles à son père. Puis elle dévisse l'urne et elle jette les cendres dans un mouvement ample. Le nuage gris s'envole comme une nuée de papillons dans le ciel éclatant de Saint-Sulliac. Tom applaudit. C'est la première fois qu'il applaudit, et Léon, en se retournant vers lui, découvre qu'il ne regarde plus le ciel. Tom vient de découvrir la deuxième merveille de son univers, la mer, et ses yeux expriment un ravissement sans nom, une extase au-delà de toute limite. Joanne a retrouvé le dessin qu'elle cherchait. Elle l'avait vu dans un conte d'enfant quand elle n'avait que 8 ans. Joseph le lui avait lu. C'est un arbre noir au tronc solide, aux branches qui s'élancent vers le ciel comme des jolies virgules. Les racines creusent de profonds sillons dans la terre. Le conte dit que cet arbre s'appelle l'arbre de vie. Il unit les deux mondes. Celui du ciel et de la terre, grâce à ses branches qui montent en extension vers le ciel, et à ses racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Le conte précise que l'arbre perd ses feuilles en hiver, mais les retrouve au printemps, représentant l'expansion de la vie et sa constante victoire sur la mort. Joanne n'avait pas tout compris à l'époque, et Joseph avait précisé
« Il représente le cycle de la vie et de la mort. »
Elle avait froncé le nez.
« C'est un symbole d'immortalité, Joanne. Ce dessin représente le fait que la vie l'emporte toujours sur la mort. »
Elle fourre le livre dans son sac en toile beige. Léon et Tom l'attendent dehors dans le potager. Ils vont se rendre en ville tous les trois. Elle veut ancrer ce symbole d'immortalité dans sa chair. Elle l'a décidé cette nuit. C'est le symbole de Joseph. C'est le symbole de celui qui l'a aidé à se construire, à s'élever. Elle le gravera dans son dos le long de sa colonne vertébrale. Elle n'a pas trouvé de meilleur symbolique.